Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter en tant que professeur d'histoire de l'art, présentateur, et donc connaisseur bien évidemment de Le Corbusier. J'ai le plaisir de vous présenter donc un travail et son auteur. Je commence par l'auteur d'abord, que vous connaissez tous bien entendu, Michel Béthiot-Létang. Qui est architecte à Bordeaux depuis des décennies, qui a réalisé donc sur la ville et au-delà de la ville des œuvres majeures. Je ne peux pas m'amuser à les citer, il y en a beaucoup trop. Je retiendrai l'ancienne cité mondiale du vin et des spiritueux, appelée de nos jours cité mondiale, l'aménagement du lycée Montaigne dans son allure actuelle, l'auditorium, bien entendu, le futur hôtel Virgin, et puis bien sûr d'autres œuvres un peu partout, presque dans le monde. Mais je dirais aussi que en 1845, un architecte qui s'appelait César Daly, qui était fondateur d'une revue qui s'appelait la Revue Générale de l'Architecture et des Travaux Publics, une revue qui a duré un demi-siècle, déplorait que les architectes dont il parlait n'écrivaient jamais. Or, Michel Béthiot-Létang est tout à fait à l'opposé de cette plainte, puisque non seulement il est architecte, mais il écrit sur l'architecture, sur son architecture, mais aussi sur la peinture, sur la sculpture. C'est donc un architecte écrivain qui, dans ses spécialités, est presque un homme total, je dirais, comme la totalité d'ailleurs aussi qu'il revendique chez Le Corbusier, que j'ai le plaisir d'accompagner aujourd'hui dans la lecture de cet ouvrage. Alors l'ouvrage, bien sûr, en deux mots, il va le présenter, traite de Le Corbusier, Le Corbusier à Pessac, Le Corbusier inconnu. Il paraît quelques mois après la fin de l'année d'anniversaire de sa mort. Hein. Et c'est un ouvrage que j'ai eu le plaisir de lire rapidement, là, parce que je n'étais pas à Bordeaux ces jours-ci, j'étais parti un mois, mais j'ai rencontré Le Corbusier dans ce voyage que je viens de faire au Brésil, partout. Je l'ai rencontré à Rio, je l'ai rencontré à Brasilia, je l'ai rencontré à Sao Paulo. Je le retrouve ici, aujourd'hui, donc, à Bordeaux, à Pessac, avec Michel Béthiot-Létang, dans un ouvrage étonnant, qui est un ouvrage qui peut surprendre l'historien de l'art, parce qu'il est d'une écriture extrêmement libre, contrairement à l'écriture que nous avons, nous, qui est une écriture contrainte. Alors, je pose la question tout de suite d'emblée à Michel, qui est à côté de moi, donc, on se connaît, on peut se tutoyer, lui demander dans quelles circonstances il a voulu écrire ce livre et apporter une pierre de plus, je ne parle pas de béton, mais de pierre, allons-y, dans cet édifice consacré à Le Corbusier, au moment où on croyait que finalement tout était dit et que tout avait été écrit. Alors pourquoi donc ce livre, Michel ?
Alors c'est une circonstance étonnante. Je connaissais Frugès, je connaissais Pessac où j'avais habité dans les années 70. Et quand Monsieur le maire de Pessac m'a demandé si je pouvais faire un ouvrage sur la cité Frugès, car la cité Frugès était élue avec dans un groupe d'une quinzaine de bâtiments réalisés par Le Corbusier pour faire partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, si on pouvait faire un travail là-dessus pour accompagner cette candidature. J'ai répondu oui, parce que j'ai l'habitude de répondre souvent oui, je réponds rarement non, et il m'a donné un délai qui était court, qui était avant la fin de l'année, nous étions au mois d'avril, je pense, 2015, et je ne savais pas du tout où j'allais. Mais je savais que pour moi, déjà, Frugès, c'était quelque chose d'important. Et je plongeais dans le sujet, Et je me suis rendu compte que Pessac était une ville particulièrement intéressante, dont j'ignorais les qualités d'ailleurs, ou toutes les qualités. Et je ne connaissais pas bien qui était Frugès, et je croyais connaître Le Corbusier, mais finalement je ne le connaissais pas bien. Alors je me suis dit, mais qui est Pessac? Qui est Frugès? Et qui est Le Corbusier? Et pourquoi ces trois éléments se sont-ils rencontrés pour faire une œuvre que je trouve majeure? Je vais tout de suite à ma conclusion. Parce que tout ce que Le Corbusier a pensé, écrit et dessiné est à Pessac. C'est-à-dire que tout ce qu'il va faire après ce travail qui va de 1924 à 1925 et le chantier de 25 à 28-29, tout ce qu'il va faire après poursuivra les théories qu'il mettra en œuvre pour la première fois. Et c'est le premier bâtiment, ensemble de bâtiments importants. Avant ce travail, Le Corbusier n'a fait qu'une maison pour ses parents, accompagné d'un autre architecte, parce qu'il n'avait pas le diplôme, en Suisse. Et il a fait surtout, à côté de Paris, une maison pour son ami peintre aux enfants. Il a fait un atelier maison pour aux enfants. Mais le premier travail important, ce n'est pas effectivement exactement Pessac, mais c'est simultané, juste avant, c'est Lège, au Cap Ferré, où il doit faire 6 maisons pour les ouvriers de l'entreprise de son père, qui était l'entreprise de sucre. Il fallait faire des caisses en bois pour mettre les pains de sucre, puisqu'à l'époque c'était des pains de sucre. Et comme les ouvriers ne voulaient pas rester à Lège, le père a demandé à son fils de s'occuper de construire 6 maisons.
Alors, donc, autre question, puisque je vais embrayer là-dessus. Cette rencontre donc avec Frugès, peut-être lié à cette visite du bassin d'Arcachon que Le Corbusier fait avec le peintre aux enfants en 1919. Est-ce qu'elle est réelle? Je veux dire, est-ce que les personnages se sont rencontrés? Qu'est-ce qui les a rapprochés?
Je crois que rien ne les a rapprochés au départ. C'est un hasard, le plus grand des hasards. Frugès, d'ailleurs, voulait être architecte. Il a fait 2 ans d'école d'architecture, puis son père, qui voulait s'arrêter de travailler, lui dit « tu vas t'occuper de l'entreprise, donc il va faire une école de commerce ». Et il était bien né, il avait de l'argent, il allait très souvent à Paris. Et quand son père lui demande de s'occuper de ses 6 maisons, Henri Frugès n'est pas encore dans l'entreprise, il va y rentrer. Et là, donc, il avait, depuis 1912, commencé des travaux pour lui, très importants, que tous les Bordelais connaissent, qui sont la maison qui est sur les Allées d'Amour et qui est face à la Basilique Saint-Seurin, qui est une très belle maison dans laquelle il a mis en œuvre des matériaux magnifiques par des artisans magnifiques, dômes, laliques, des grandes signatures, plus des Bordelais, sous l'autorité d'un architecte qui s'appelait Ferré, Pierre Ferré, grand-père du Pierre Ferré actuel, et qui, quand il demande à son architecte de faire 6 maisons pour des ouvriers à Lège Cap Ferré, Ferré lui dit, mais il y a un jeune architecte, enfin il y a un personnage dont on parle à Paris, voilà. Il va à Paris, il entend parler par d'autres Parisiens, alors qui c'est qui lui a mis la puce sur l'oreille, on ne sait pas trop, il entend parler d'autres Parisiens que Jeanneret, car le vrai nom de Le Corbusier c'est Gris Jeanneret, un double nom, Charles-Édouard Gris Jeanneret, participe à une revue et a écrit un ouvrage vers une architecture dans lequel il vilipende les architectes, il vilipende l'architecture en général, ils disent que les académiciens c'est à jeter à la poubelle et que l'architecture moderne doit être industrielle, ouverte, etc.
Voilà, c'est-à-dire qu'on a, en présence un personnage, Henri Frugès, qui est un personnage riche, moderne, d'une certaine manière, mais qui n'est pas encore totalement sensible à ce style contemporain, puisque son hôtel Frugès porte encore les traces d'historicisme qui vont être balayées par Le Corbusier. Donc il va y avoir tout d'un coup dans cette... découverte, un bouleversement véritable de la conception de l'architecture que Frugès avait.
Oui, sûrement. Je pense que comme c'était un homme très ouvert et éclectique, il savait jouer de la musique, il a même composé plus tard un opéra. Il arrive à Paris, il est dans une certaine modernité. On est après la guerre de 14-18. C'est les années folles, 1920, 21, 22, 23. Plein d'idées nouvelles apparaissent, plein de noms d'architectes nouveaux dans le monde essaient de développer des activités de cité-jardin. Et Frugès, il dit comme ça, allez, je vous donne chèque en blanc pour réaliser ce que vous souhaitez. C'est une espèce de pari, d'un mécène pour un artiste. Hein, il aurait pu se tromper complètement. Et c'est là que le Corbusier lui dit merci, il se signe le contrat le lendemain du jour où il se voit. Et le Corbusier lui dit, mais si vous voulez vraiment appliquer mes théories, qui sont qu'il faut faire des maisons comme on fait des avions, des automobiles, c'est-à-dire les préfabriquer pour qu'elles soient moins chères, qu'elles soient mieux faites, je peux pas. Ça va vous coûter trop cher sur 6 maisons. Il faut qu'on fasse beaucoup plus de maisons. Frugès dit d'accord. Il rentre à Bordeaux, il choisit un terrain sans en parler à Le Corbusier, et quelques jours après, il lui dit, j'ai trouvé un terrain. Et pourquoi Pessac? Parce que Pessac était le lieu depuis toujours où les Bordelais allaient parce que c'était le lieu qui était sous le vent de la mer, c'est un lieu qui est sain, qui était un lieu de campagne, de vignes, de maîtres dans la campagne et qui était prisé par les Bordelais qui, en la fin du 19e siècle, ont fait la première et presque unique cité-jardin à Bordeaux. Et donc Frugès, il dit, bah, c'est là qu'il faut que j'installe puisque on est dans l'époque où on dit que l'urbanisme doit être hygiénique. C'est-à-dire que si on doit faire maintenant un certain ensemble d'immeubles, il faut qu'ils soient dans des quartiers sains. C'est ce qu'on redit aujourd'hui, bon, à l'époque. Et au même moment, Xavier Arnauzan achète un terrain presque mitoyen pour construire le sanatorium. Donc Frugès dit, je vais laisser Le Corbusier, Jeanneret, faire son projet. Je vais acheter le terrain le mieux placé. Il y a une voie de chemin de fer, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de trains et ça ne faisait pas beaucoup de bruit. Je vais acheter ce terrain et je vais permettre à Jeanneret de faire exactement ce qu'il veut. Et donc, il commence à faire des plans qui sont presque des esquisses pour Lège, avec un modèle A. Et ensuite, Frugès se dit, je vais quand même vérifier si tout va bien. Donc, dans la cour de son entreprise, il fait réaliser une maquette grandeur nature, c'est-à-dire un modèle, qui va servir à modifier d'ailleurs le projet de Lège, et qui va être la base d'un des types de maisons de la cité Frugès.
D'accord. Alors, un petit mot sur cette maquette-là, sur la villa dite du
Du
Tonkin,
Tonk.
qui a disparu il y a quelques années, à peine, il y a 20 ans, je crois qu'elle
Oui,
a
à
été
peu
démolie,
près, oui,
à
un
peu
peu
près.
plus, un peu plus.
C'était une maquette habitée ou non?
Non, elle était habitable, mais
Habitable,
elle n'a pas été
d'accord.
habitée. Sauf
Donc elle a été
que,
mise en scène par la photographie
oui,
avec des personnages qui sont censés montrer qu'on peut l'habiter.
voilà. Mais elle
D'accord.
a vraiment été construite, la cuisine a été faite, les garde-corps
D'accord.
ont été faits. C'est là qu'il s'est rendu compte de certains petits problèmes qu'il a
D'accord.
corrigés, notamment les menuiseries verticales tous les 15 cm, il y a un problème pour les ouvrir et les fermer. Et donc, il a fait une maquette grandeur nature, ce qu'on ne ferait pas aujourd'hui.
Oui.
Et à partir de là, il a tiré certains partis sur notamment l'escalier, comment il était à l'extérieur, qui n'était pas très commode, et la partie abritée aussi. Voilà. Et donc, et quand il a commencé Lège, il a appliqué exactement pratiquement la maquette, mais il y a eu des problèmes ensuite d'habitabilité. Parce que les gens n'étaient pas habitués, notamment à Lège-Cap-Ferret, à monter à l'étage. Il a fait des petites transformations au même moment. Et
Oui.
il a lancé Pessac simultanément en multipliant les modèles sur Pessac.
Là, tu poses une question très intéressante. Les gens ne sont pas habitués à monter à l'étage. C'est-à-dire que finalement, l'habitude de vie du Bordelais, c'est l'échoppe. Et c'est ça qui va peut-être aussi gêner beaucoup le succès de la construction de la cité Frugès.
Oui, parce que autant Lège, c'est pour les ouvriers, donc c'est du paternalisme, autant à Pessac, c'est vraiment un projet de promotion libre. D'ailleurs, dans le livre, j'ai mis le prospectus à l'époque, la maison pour tous. Donc, ce n'est pas pour ces ouvriers, contrairement à ce qui a souvent été dit, c'était tout le monde pouvait en acheter. Et effectivement, commercialement, ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas bien marché pour plusieurs raisons. D'abord, comme tu viens de le dire, c'est un modèle pas habituel à Bordeaux. La raison de Le Corbusier de faire des maisons plutôt étroites, même des fois sur deux niveaux qu'il appelait gratte-ciel, c'était parce qu'il ne fallait pas prendre trop de terrain et il fallait que sur chaque terrain, que chaque habitant ait deux jardins, un jardin d'ornement, je dirais, devant, et un jardin pour faire de l'agriculture, pour se nourrir. Il avait un jardin productif et donc il fallait qu'il y ait de la place pour le terrain. Donc il valait mieux monter pour libérer du terrain. C'est une des thèses de Le Corbusier qu'on verra plus tard dans son plan voisin d'ailleurs.
Oui.
Et donc c'était pas du tout dans les normes des Bordelais ou dans les
Donc,
habitudes.
dès l'âge apparaissent quand même des problèmes d'habitabilité, je dirais,
Oui.
de ce qu'ils construisent, ce qui n'empêche pas d'aller au-delà.
Voilà. Mais
Bon.
à l'âge, les gars, on leur dit, vous allez être là, vous allez y rester 6 mois pour faire des caisses, on reviendra à Bordeaux après, donc bon, très bien. Tandis qu'à Bordeaux, il fallait les vendre. Et il y a eu deux complexes, plusieurs autres problèmes. C'est qu'il a eu du mal à obtenir des permis de construire. À l'époque, il n'y avait pas des permis de construire. Je suis allé aux archives de la commune de Pessac, qui sont très bien organisées, où j'ai très bien reçu, mais qui ne sont pas visitées, malheureusement. Allez visiter les archives de la commune de Pessac. Et j'ai retrouvé là tous les permis de construire qui avaient été déposés aux mêmes années. Et j'ai été étonné de voir du nombre de lotissements en 1925. Il y a 13 lotissements qui sont déposés pour des programmes importants, Vertamont et ailleurs, avec des lots de 30 ou 40 terrains. Mais les gens, à ce moment-là, comme on le fait encore, ils achetaient un terrain et puis ils faisaient leur maison. Il n'y avait pas de promoteur pour faire les maisons comme on le fait maintenant. Et quand Le Corbusier a réalisé, quand M. Frugès a lancé son projet, il obtient les autorisations pour le faire, mais qui n'est pas du tout les mêmes formulations que les permis de construire actuels, mais il fallait qu'il obtienne les autorisations pour amener l'eau et pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes, et amener l'électricité, etc. Et à ce moment-là, les services fermiers, c'est-à-dire ceux qui géraient la distribution d'eau et des égouts, traînent des pieds, ne le font pas. Le chantier va se terminer pour la première partie sans qu'il ait d'assainissement et sans qu'il ait de l'eau. Et donc les gens ne peuvent pas habiter. Et donc les immeubles restent vides et s'abîment parce qu'ils sont inhabités. Et ils étaient au départ peints en blanc. Ce qu'on ignore, c'est qu'il y a des photos dans le livre, on les voit bien en blanc. Parce que Le Corbusier, à l'époque, n'utilisait pas la couleur. La maison des enfants est blanche. Et la maison qu'il va réaliser 2 ans après, la première maison qu'il va réaliser, qui est à Paris pour son frère, qui était musicien, et un ami de son frère qui était collectionneur d'art, il va faire 2 maisons associées, la famille Roche, là s'appelle la maison Laroche. Il va mettre un ton un peu grège, un peu ton pierre, un peu, puis il va mettre un peu de bleu dedans et un peu de marron dedans, mais il peint pas la couleur. Il est blanc. Et alors il y a des lettres que j'ai retrouvées de Frugès qui dit, mais personne ne veut acheter mes maisons parce qu'à Bordeaux c'est les chopes qui veulent. Et là vous avez fait des maisons blancs et les gens se moquaient du lieu en disant c'est le Maroc ou le un mot encore le Rigolarium. Le Rigolarium. Alors, tu ne vas pas aller habiter au Rigolarium, tu vois, et puis il n'y a pas d'eau, puis il n'y a pas d'assainissement. Donc, ça va s'abîmer pendant un certain temps. Finalement, Le Corbusier, qui commence à se faire connaître partout, va faire venir un ministre de la Construction pour faire une pose de première pierre. La pose de première pierre est déjà faite, mais pour pousser les services locaux à quand même amener les assainissements. Donc, ils vont finir par être assainis. Et Le Corbusier lui répond toujours, et Frugès lui répond toujours, mais c'est à ce moment-là que Jeanneret devient Le Corbusier, d'ailleurs. C'est pour ça que je fais, malheureusement, à chaque fois, je me trompe. Et Frugès lui dit, il faut peindre les maisons. Et en 1931, j'ai retrouvé le courrier du président du syndicat des habitants qui, en 1931, écrit à Le Corbusier en lui disant, mais donnez-nous le plan des peintures, parce que ma maison qui est encore blanche, de quelle couleur je dois la peindre? C'était quand même très respectueux de l'architecte, d'ailleurs. Et donc, il va être de nombreuses années avant d'organiser ces couleurs, dont je pense qu'elles sont inspirées par Klee, j'explique pourquoi. Parce que c'est des peintures minérales, et Le Corbusier, qui est un passeur finalement, avait rencontré Klee en Allemagne, à Weimar, au moment où se crée le Bauhaus. Klee était professeur, et Klee lui explique, lui apprend comment on peut faire de la peinture avec des pigments minéraux. Et c'est ce qu'il va appliquer là. Et qui va mettre du temps à mettre en œuvre. Donc, je me permets de penser que la coloration rarissime des maisons entièrement peintes avec des couleurs différentes, ce que même les architectes aujourd'hui n'oseraient pas tellement faire, c'est pas forcément seulement Le Corbusier, mais c'est Le Corbusier et Frugès.
Bon. Alors, je reprends un petit peu ce que tu viens de dire et j'ajouterai une petite citation, une petite lettre, et tu vas me dire ce que tu en penses de ça. En 1926, Le Corbusier vient pour l'inauguration d'une cité qui n'est pas terminée. Il écrit à sa mère, Pessac est un poème méditerranéen, une éclosion athénienne, un village debout, espèce de bouquet inattendu, vif, ferme et intense à l'orée de la forêt. Et trois ans plus tard, en 1929, il repasse. Et il écrit ceci à sa mère. Le 22 mai, j'étais à Pessac, nécropole. Pourtant, une poésie intense, une harmonie vraiment indiscutable, en chaque espace de terrain, des sensations d'harmonie. Nos millionnaires de Paris s'y raviraient. Et voilà le gouffre. L'ouvrier, le petit peuple ne saisit rien, ne comprend rien. Et plus, la noblesse bordelaise est totalement réactionnaire. La gardienne me dit, il vient un tas d'étrangers, des gens bien chics, bien polis, et qui photographient. Qu'est-ce que tu penses de cette changement comme ça, tout d'un coup, d'impression que ce bâtiment, enfin, que cette cité qui devient finalement quelque chose qui n'est pas achevé, qui oui. commence à se détériorer, laisse sur Le Corbusier qui la visite en allant faire un tour sur le Cap Ferret où il allait tous les étés.
Voilà. Alors, d'abord, Marc Sabouya a participé à une exposition au Cap Ferret. Il a fait des conférences dans la bourse ici sur Le Corbusier, sur ses courriers qui sont des courriers passionnants. Le Corbusier avait une vénération, tout au moins un respect de sa mère qui était étonnant, et il écrivait presque tous les jours à sa mère, très régulièrement il écrivait à sa mère. Et ces courriers que tu cites sont importants. Le premier, il dit « village méditerranéen ». Ça veut bien dire que c'était blanc.
Et puis les formes aussi.
Les formes, mais étaient terrasses.
Voilà. Le cubique,
parce que
etc.
Les cinq thèmes qu'il va répéter toute sa vie sont le plan libre, c'est-à-dire la structure permet de mettre les murs intérieurs comme on veut, puisqu'ils ne sont pas porteurs. C'est les maisons sur pilotis, de manière à ce que la vue du piéton ne soit pas bloquée par les maisons, mais passe à travers les maisons et qu'il y ait des perspectives sur les jardins. Et ça, à Pessac, c'est très bien. Ensuite, la fenêtre horizontale. Ensuite, la terrasse. Et il m'en manque un qui va me revenir.
Voilà, Les pilotis,
je l'ai dit, mais bon. Et donc, et toute sa vie, tout même Chandigarh, que j'ai eu le plaisir de visiter, de rencontrer le cousin qui est architecte, alors que Jean-Ré Le Corbusier n'est pas architecte, il n'a pas de diplôme, il a un diplôme de ciseleur de montre seulement. Et c'est grâce à son cousin qu'il va pouvoir créer son agence. Donc, la deuxième lettre, vient dire, c'est une éclosion parce que à cette époque-là.
Non, deuxième lettre dit, c'est un gouffre.
C'est un gouffre.
Voilà, oui. Une nécropole.
Non, alors,
mais avant de passer à la deuxième, quand il dit, c'est une éclosion athénienne, pour un homme qui conçoit une architecture en rupture avec l'histoire, ça paraît curieux quand même de citer des références.
Oui, alors ça, c'est le grand problème de Le Corbusier, qui était un homme hyper moderniste, hyper avant-gardiste, vraiment. Comment dire, pratiquant des thématiques sociales et autres très, très, très nouvelles, et en même temps imbu des voyages qu'il a fait lui-même, notamment en Italie et en Grèce. Et il a toujours été frappé par un monastère qui est à côté de Florence, où il dit qu'il a vu là la chose la plus intéressante possible. Et toute sa vie.
La Certosa de Galuzzo.
Voilà. Et toute sa vie, il va être pris dans ce dilemme. Moi, le moderne, moi qui veux aller plus loin. Sans arrêt, il fait référence à des architectures classiques, notamment le Parthénon, dont il a fait des croquis, etc. Et c'est pour ça que tu as raison de signaler cela. C'est ce qu'il dit à sa mère, quoi. La personne avec laquelle il a la relation la plus intime. C'est une éclosion méditerranéenne,
voilà. C'est bien grec. Et alors le gouffre, et ce qu'il dit sur les bourgeois bordelais réactionnaires qui ne peuvent pas accepter ce genre d'architecture.
Oui, parce que même s'il prône la maison pour tous, ce n'est pas un membre de la CGT, notre ami Le Corbusier. Il reste quand même quelque part un homme qui est passionné par son travail, qui est persuadé qu'il a le génie et que lui, il a la solution, mais il a, même s'il a eu des temps très durs à Paris, à un moment donné, quelques années avant, il n'a pas fréquenté le monde ouvrier, il n'en connaît pas les problèmes. Pour lui, réussir, c'est que les édiles, les autorités, notamment celle du Brésil dont tu reviens, le consacre comme étant un grand génie et lui donne des grands travaux. Mais le peuple, Il veut travailler pour lui, mais il le méconnaît. Et donc, qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre qu'à Bordeaux, les édiles ne l'aident pas, les bourgeois ne l'aident pas. Et ça, il voit bien qu'il y a des ouvriers qui ont acheté, mais personne ne l'aide. Et c'est, pour lui, il n'est pas reconnu comme architecte. C'est ça son problème.
Alors, je pose une autre question sur ce que tu appelles l'habitat social. C'est-à-dire que le principe même de la cité Frugès, avec ces différents types de bâtiments, montre qu'il y a une hiérarchie quand même qui est appliquée dans l'habitabilité de l'espace. Il y a des gratte-ciels, deux ou trois appartements, je ne sais pas, deux, non ?
Gratte-ciel, non, il y a un appartement par bâtiment. Ils sont, en fait, c'est deux bâtiments qui sont associés par l'arrière.
Il y a des maisons individuelles, oui. Il y a des villas plus grandes. Quelle était l'idée finalement du social chez Le Corbusier? Est-ce que c'était un mélange de classes ou bien est-ce que c'était simplement le fait de construire un ensemble de maisons pour pouvoir les vendre ensuite? Le Corbusier ou Frugès, pardon.
Frugès n'a pas d'idée au départ. Frugès, il confie comme un mécène un travail à Le Corbusier sans contrôler. C'est souvent les maîtres d'ouvrage maintenant modernes, ils contrôlent ce que font les architectes. Puis il y a des bureaux de contrôle, il y a plein de choses. Là, il lui dit, je vous fais un blanc-seing pour faire ce que vous souhaitez faire. Mais que veut faire Le Corbusier? Le Corbusier, c'est appliquer ses idées à lui. Ses idées à lui, c'est industrialiser la maison et faire un plan type dans lequel tout le monde pourrait trouver son bonheur. Donc, il ne cherche pas à faire des maisons pour une certaine classe riche, comme il va les faire quand même pour la Roche-Jeanneret à Paris, ou d'autres, ou la Villa Poissy après. Il a eu la chance d'avoir Frugès et d'avoir pu faire cet habitat que j'appellerais social, parce qu'autrement, il aurait fait comme Malé Stevens, il aurait fait des maisons pour les riches. Car en fait, il s'adresse à Paris, c'était un homme qui cherchait à gravir les échelons sociaux et il s'est servi d'aux enfants pour rentrer dans le monde parisien. Puis quand il était dans le monde parisien, il s'est servi des uns ou des autres pour aller encore plus haut et être encore plus reconnu. Et donc, s'il n'avait pas eu Frugès, peut-être qu'il ne se serait consacré qu'à des maisons pour des gens riches. C'est grâce à Frugès qu'il a pu, dès le départ, dès sa première œuvre, aborder l'habitat pour tous, mais pour tous égalitaire d'ailleurs. Il est presque communiste là, c'est tout le monde la même chose. Alors, comme pour pas que ce soit monotone, il a fait différents types. Il a fait la maison qu'on appelle zigzag, c'est-à-dire une maison qui est en zigzag, qui s'accole entre elles et qui font que chacun voit son jardin et ne voit pas le jardin de l'autre. Ensuite, il a fait des maisons côte à côte qui voient chacune leur jardin, mais qui sont selon d'une rue. Ensuite, il a fait des maisons arcades qui sont géniales parce que la maison elle a à peu près le même volume de mètres carrés que la zigzag ou que l'autre, mais deux maisons sont accolées, puis deux autres maisons, et entre, il a fait une arcade. Et comme c'est la fin du programme, la volonté de cette arcade, c'est de faire d'apercevoir la forêt. C'est-à-dire que quand on est dans le projet, on n'est pas fermé dans une cour.
Oui.
On voit la nature qui est... la nature, elle est dans le projet, mais on la voit aussi derrière. Et ça, c'est vraiment un effet architectural gratuit au départ. Ça ne sert à rien. Mais ça sert à donner un lien entre différentes maisons et à embrasser le paysage et faire rentrer le paysage dans la perspective intérieure du projet. Mais c'est le même type de maison, si tu veux. Tu vois.
Et quand
il fait la maison dite gratte-ciel, alors c'est la plus géniale, d'ailleurs, quelque part, puisque en bas, il y a un espace, soit pour le garage, parce que les gens n'avaient pas de voiture à l'époque. Ils s'étaient installés là, aussi Frugès, parce qu'il y avait le tramway qui passait à l'époque là. Et donc, on pouvait travailler dans Bordeaux et venir habiter là, en prenant le tramway. Parce que peu avaient de voiture en 1925. Mais dans ces maisons, on peut mettre une voiture en bas ou avoir un atelier en bas. Puis le séjour est au premier étage et les chambres au deuxième étage. Et au-dessus, une terrasse partiellement couverte en disant, non seulement ils auront le jardin derrière pour faire un peu d'agriculture, ou latéral là, pour faire un peu d'agriculture, et ils auront la terrasse pour se reposer les soirs d'été quand il fait trop chaud dans la maison, on peut se rafraîchir, etc. C'est quand même génial. C'est des choses que les architectes rabâchent encore aujourd'hui, un siècle après pratiquement.
Alors, donc, tu parlais de voiture et ça me fait évoquer cette maxime finalement très 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 connue de Corbusier disant que la maison c'est une machine à habiter et qui comparait toujours la maison finalement, enfin, qui voulait que la maison ait la perfection d'une voiture. Ce qui est étonnant, c'est que quand on voit des photographies, et Le Corbusier photographiait pratiquement toujours ces maisons avec une voiture devant. Quand on regarde de nos jours ces photographies, c'est la voiture qui a vieilli. Et la maison reste toujours d'une modernité absolument étonnante. Alors, les caractéristiques de cette modernité, finalement, qui défie le temps, hein, comment peut-on les définir ? Elles datent de 25, en 2016, elles sont toujours aussi fortes. Ces caractéristiques, ces traits, ce sont toujours aussi forts et parlants. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intemporel, finalement, dans cette architecture, presque ?
Alors, je vais te faire trois réponses. Premièrement, pour les maisons, Le Corbusier n'avait pas d'argent. Il avait fait des entreprises avant où il s'était ruiné, il a fait faillite. Il vendait n'importe quoi, des briques à partir d'asphalte. Enfin, il s'était lancé dans des trucs incroyables qui n'avaient rien à voir avec l'architecture. Mm-hmm. Mais ça lui avait appris que quand même, il fallait trouver des financements. Donc, il s'adresse d'abord à Renault, à Citroën, pardon. Mm-hmm. Citroën, je vous prie de m'excuser, pour que Citroën nous finance. Moi, je veux faire des maisons industrielles, vous faites des voitures, vous pourriez aussi faire des maisons. Citroën lui dit non. C'est pour ça que sa premier type de maison, il appelle Citroën, pour se moquer de Citroën, mais en même temps rappeler à tous que ça peut être comme une voiture. Mmh. Et ensuite, il va voir Monsieur Voisin, qui fabriquait des autos Voisin, très belles, et il lui dit, il faudrait me financer des projets. Et Voisin lui donne un peu d'argent, ce qui va lui permettre de financer les études qu'on appelle le plan Voisin de Paris, mais on va s'éloigner du sujet. Oui. Et c'est pour ça que la voiture, pour lui, c'était un espèce de modèle type qu'il fallait appliquer à la maison. Donc, il met toujours une voiture, tu vois, c'est pour ça. Oui. Mais la voiture, elle a énormément évolué.
Oui, c'est ça.
Techniquement. Mais la maison, elle, qu'il faisait à ce moment-là, c'est celle dont nous parlons en 2015. Lui, il avait presque un siècle d'avance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sa maison paraît encore moderne, parce qu'elle était de 2015 en 2025, si je peux dire ainsi. Mm-hmm. Parce que, par exemple, il dit...
Donc, il est, d'une certaine manière, futuriste, tu penses ?
Ah oui, complètement. Il dit, il faut supprimer le dehors et le dedans. Il faut faire des baies sur toute la longueur de la façade pour que à l'intérieur on voit tout le paysage. Mais évidemment, quand on a des tableaux pour mettre au mur, Tintin, quand on a une armoire normande, Tintin, on peut pas la mettre. Ça, c'était pas possible. Et puis les gens disent, mais on va me voir. Hein, y a eu des films qui ont été faits là-dessus beaucoup plus tard sur la transparence, disons, gênante pour les gens de la rue qui voient les gens, l'intimité des gens dedans, etc. Et il dit, le plan doit être libre. 125, qu'est-ce que c'est qu'un plan libre ? Même si on pose un sang dans la rue Vital Carle et on dit aux gens, c'est ce que c'est qu'un plan libre ? Ils ne savent pas. Et il fait des maisons où il n'y a pas d'entrée. Il appelle ça le parloir. Mais les gens, ils étaient chez eux à ce moment-là avec toujours une entrée, un couloir qui distribue des pièces. Comme toujours depuis tout. Et lui, il casse tous ses concepts. Et on rentre, on a un petit parloir, un endroit où on peut dire bonjour au facteur ou recevoir un colis, ferme la porte, et on est dans le séjour pour ne pas perdre la surface du couloir, gagner le coût du mur du couloir et de la porte du couloir, et il met, en 1925, la cuisine dans le séjour, avec juste un petit truc derrière. Et il dit, pour monter dans les chambres, il y a un escalier au milieu. C'est hyper moderne. Et arrivé en haut, il y a un tout petit palier un peu arrondi dans un coin pour pouvoir aller dans les deux chambres. C'était pas des grandes maisons. Et pour qu'à un moment donné, il y ait une où on peut avoir deux chambres, pour qu'on ne fasse pas deux petits rectangles, il fait la cloison arrondie. Ce qui permet que quand on rentre dans celle où on a l'arrondi devant nous, ça paraît grand. Et quand on rentre dans celle où on n'a pas l'arrondi, on aperçoit que derrière l'arrondi se passe quelque chose et la chambre paraît encore grande parce qu'on croit qu'il y a quelque chose d'important derrière. Et cet effet d'optique, si je puis dire, cet effet psychologique sur comment je vis ma maison, il a inventé ça en 1925. Aujourd'hui, moi, architecte, quand je dis à quelqu'un, on va faire une cloison courbe dans votre maison, vous croyez, monsieur l'architecte, mais comment je vais mettre les meubles contre ? Voilà. Donc, il a, en 1925, dessiné des choses qu'on a encore du mal, si tu veux, que le commun de la population a encore du mal à accepter. Oui. C'est pour ça qu'elles sont très modernes. Cependant, elles n'étaient pas très bien exécutées.
Donc là, voilà encore un point qu'on a déjà soulevé tout à l'heure, mais partiellement. Ces maisons vont être habitées et les gens vont les transformer. Alors, ces transformations, donc, vont poser énormément de problèmes. Est-ce que tu peux parler d'abord du moment où on commence à se rendre compte dans les années 70 qu'on a là à Bordeaux quelque chose que personne ne connaît et que cette œuvre méconnue est en train d'être totalement dénaturée.
Alors, les gens qui ont acheté, il a fallu d'abord qu'ils attendent d'avoir l'eau, etc. Puis ensuite, ils se sont rendus compte très vite que ces maisons n'étaient pas très bien bâties. parce qu'il aurait fallu, comme il l'avait dit, d'ailleurs, Le Corbusier, utiliser des moyens de construction, de préfabrication, qui n'étaient pas à l'échelle d'un petit projet comme ça. Le projet n'est pas allé jusqu'au bout, d'ailleurs, parce que le Frugès lui-même a eu des difficultés, parce que à ce moment-là, c'est le regroupement des sucriers et son entreprise, qui est une petite entreprise de province, est mangée par Béguinssé et compagnie, qui l'achète, enfin, et il fait faillite. Enfin, il ne fait pas exactement faillite, il vend sa société, il fait une dépression, il part en Algérie pour 36 ans de départ, et il disparaît, Frugès. Il ne reste plus que sa femme qui gère, avec l'ex-directeur de l'entreprise, la fin des chantiers. Et donc les gens se retrouvent dans une difficulté énorme. Pas les égouts, mais il avait une idée, c'était de créer des fosses septiques qui étaient tout à fait novateurs. Et il avait inventé, comme il avait regroupé pour faire des économies, la cuisine était sous la salle de bain pour qu'il y ait un minimum de tuyaux. Et puis, il avait inventé le calorifère. Je m'excuse, je m'éloigne un peu, mais tu vois, je
Non,
reviens à ta
mais c'est très
question.
bien, hein,
Le
oui.
calorifère, c'est-à-dire qu'il avait inventé dans la pièce basse une chaudière qu'il a fait fabriquer spécialement par un fabricant de chaudières français, qui rappelle des chaudières anglaises d'ailleurs dans leur principe. Il y avait la chaudière pour faire cuire les victuailles et en même temps une réserve d'eau pour chauffer l'eau chaude. Chaude dans la maison, ça n'existait pas à l'époque. Et il a fait arriver une bouche d'air neuf derrière avec une espèce d'ensemble dans lequel de vide dans lequel passait l'air neuf. Et comme l'air chauffé monte, parce qu'il devient plus léger que l'air lourd, ce tuyau monté par un tuyau d'évrite est distribué les chambres qui étaient en haut. C'est une espèce de chauffage central à l'air chaud. Il faut dire qu'avant, il avait lui-même pris, avant d'être, si je puis dire, architecte, la concession de tuyau d'évrite. Alors, il a gardé ce thème. Et ça veut dire qu'avec un même outil, quand vous mettez un morceau de bois pour faire la cuisine, vous chauffez votre eau pour vous laver et vous chauffez la maison. Quand même génial. C'est pour ça que les chambres sont en haut, parce que l'air chaud montant, naturellement, les chambres étaient chaudes, même si le séjour était un peu frais. Je ne vais pas entrer dans d'autres détails comme ça. Mais les gens qui ont découvert tout cela, ils ont vu que les maisons, elles condensaient considérablement. Parce que plus on est allé, plus on les a chauffées. Et plus on chauffe une maison, plus elle condense. Alors que si elle fait la même température que dehors, ce qui n'est pas agréable, elle ne condense pas. Ils ont vu après que les bétons qui n'étaient pas très bien faits se fissuraient. Et ils ont vu que les toits, dont l'étanchéité est une étanchéité à l'asphalte la plus banale possible, comme sur la route, donc ça perce, l'eau passe à travers, il y avait des fuites. Donc, ils l'ont acheté pas cher, avec un prêt dont je ne vais pas m'étendre dessus, qu'il a pu obtenir, que Frugès a pu obtenir. Et il faut dire que Le Corbusier venait pas sur le chantier. C'est Monsieur Frugès qui allait acheter le linoléum, qui allait acheter les menuiseries, qui s'occupait de tout. Monsieur Frugès. Corbusier, il est venu, il a fait son dessin, il s'est barré. D'ailleurs, il s'est barré au Brésil à ce moment-là. Parce qu'il était copain de Brassailles et que Brassailles l'a fait venir au Brésil. Je saute sur ce détail. Donc les gens, ils ont commencé par mettre des toitures provisoires qui sont devenues définitives avec des bacs acier, puis après avec de l'onduline pour se protéger de la pluie. Ensuite, ils ont rempli les vides qu'il y avait en bas pour pouvoir y mettre, sinon un congélateur il y a 25-30 ans, une machine à laver ou des locaux complémentaires pour faire du rangement. Donc les pilotis, ils ont disparu. Et le toit, il est devenu un peu n'importe quoi. Puis il y en a qui avaient d'origine espagnole ou d'origine diverse, qui ont commencé à faire des encadrements blancs sur la façade et mettre des grilles en fer forgé ou des lampes en fer forgé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est leur bien. Ils ne savaient pas que Le Corbusier était un homme inconnu. Personne ne pensait que Le Corbusier aurait eu cette carrière. Personne ne pensait que Le Corbusier aurait été un des plus grands architectes du XXe siècle. Donc ils s'en foutaient, c'était leur bien, il fallait qu'ils y soient bien dedans, alors ils se sont protégés, comme ils le font toujours dans nos banlieues et partout d'ailleurs. Et les maisons ont perdu leur caractère originel. Elles sont devenues un ensemble de maisons qui étaient de plus en plus différentes les unes des autres. Il y en a même qui ont bouché la grande baie horizontale pour mettre des fenêtres avec des espèces de jardinières rondes comme ça, type 1930-40, etc. Donc les maisons ont complètement changé.
C'est-à-dire que tout le caractère finalement qui faisait le caractère novateur de cette architecture que revendiquait l'architecte a été détourné
Détourné,
totalement.
même effacé presque.
Et on revenait pratiquement à des maisons traditionnelles, c'est-à-dire des maisons qui ont un toit à double pente et qui ont un décor.
Exactement.
Voilà.
Où
Bon.
l'homme se retrouve.
C'est ça. Et alors, quel est le fait? Alors, donc là-dessus est arrivé un historien de l'art qui s'appelle Philippe Boudon, qui fait un livre tu connais, très important, qui s'appelle Pessac de Le Corbusier, hein, qui pose vraiment la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire devant cet état de fait. Est-ce qu'on essaie de retrouver Le Corbusier d'origine, ou au contraire, est-ce qu'on invite les gens à s'installer comme ils le désirent dans ces bâtiments qui ne leur correspondent pas?
Alors, c'est un problème très important et constant, qui a toujours existé. Souvent, les architectes se prennent pour des démiurges qui savent tout et qui font des œuvres qu'il ne faut pas déranger. Et ils considèrent que souvent, ceux qui occupent leur lieu et qui les mettent à leur façon de les habiter, détruisent leur œuvre. Bon. C'est un peu ce sujet de Boudon. Est-ce qu'il faut garder l'œuvre comme étant une chose intangible, indéformable, quels que soient ses défauts?
Ça pose aussi la question de savoir, est-ce qu'une maison d'architecte est habitable par celui qui n'a pas choisi?
Exactement.
La maison dans laquelle il est.
Je fais un long chapitre là-dessus, parce que je dis, de quel droit? Parce que maintenant, on fait le reproche que ces braves gens, grâce à qui l'œuvre est toujours présente, grâce à qui cela va peut-être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est parce que les gens les ont conservés. Autrement, parce que dans les années 70, il avait été envisagé par la communauté urbaine de Bordeaux de raser tout, parce que insalubre, et de faire un immeuble collectif qui aurait été sans doute plus rentable pour le promoteur ou l'office d'HLM qui l'aurait fait. Donc, un architecte qui s'est consacré à l'analyse de ces problèmes-là a fait cet ouvrage, et en même temps, un monsieur qui s'appelle Hérault, je cite son nom, a acheté une maison à arcades, et de lui-même, bricoleur, il a nettoyé, il a cherché, il a repeint comme Le Corbusier l'avait souhaité, ou comme Frugès et Le Corbusier l'avaient souhaité pour les couleurs, il a refait les menuiseries, il a remis les pièces comme elles étaient, et tout le monde a dit, mais voilà, on retrouve la maison. Et grâce à lui, cette maison a été inscrite à l'inventaire supplémentaire qui a créé automatiquement un périmètre de 500 mètres de protection autour. Et aussitôt, d'autres gens, quand ils voulaient modifier leur entrée, qui déposaient un permis de construire, leur disaient « Ah non, c'est devenu un secteur non pas sauvegardé, mais presque, à protéger. Et vous devez vous rapprocher des idées du projet d'origine. » À ce moment-là, une commission a été mise en place par la ville de Pessac, 1982, avec un architecte, un scientifique de l'art, et un philosophe ou sociologue, etc. Et ils ont créé une charte qui était de dire qu'on ne peut pas imposer aux gens de démolir les toits qu'ils ont fait et d'autres choses. C'était même très intelligent. On va laisser ceux qui sont là comme ils sont, mais dès qu'ils transformeront, il faudra qu'ils se rapprochent de l'origine. Et donc, depuis 82-83, il y a tout un travail qui est fait pour ramener cet espace à le plus proche possible de son dessin d'origine. Et des gens, des professeurs, notamment de l'université, s'est attaché à faire une première maison qui est magnifique. On croit qu'on est en 1926-27, à la fin du chantier. Il en a acheté une deuxième à côté. Ensuite, un autre monsieur qui n'avait rien à voir avec l'architecture, mais dont la femme avait trouvé ça intéressant, sa femme, lui disait, mais on va se ruiner, etc. En ont acheté une très belle, une des plus belles, qui appartenait à M. Vrina, qui était l'ingénieur qui avait suivi le chantier. Et ils l'ont restauré, et puis ils ont décidé, à la retraite, de venir habiter là. C'est-à-dire, à 65 ans, ils ont quitté de belles maisons, c'était un fonctionnaire important dans d'autres villes, pour venir habiter dans une zone de Corbusier, avec tous les défauts qu'elle pouvait avoir. Et puis, de fil en aiguille, Aquitanis, finalement, a acheté 3 maisons, qu'ils ont restauré en retrouvant les menuiseries le plus près possible de celles d'origine, qui étaient noires et très fines, mais isolantes, et notamment avec des doubles vitrages. Et de fil en aiguille, on voit renaître la cité comme, je pense, Le Corbusier l'aurait pensé. Si il avait le bonheur d'être vivant aujourd'hui, qu'il reviendrait, je pense qu'il crierait à sa mère que finalement, on va retrouver son travail.
Oui, oui. Et ça va même jusqu'à la préservation de l'environnement. La ZPPAUP, dont tu fais allusion, s'intéresse pas seulement aux maisons, mais aussi à tout le mobilier urbain qui l'accompagne. C'est ça, non ?
Absolument.
Qui doit aussi s'associer le plus près du dessin d'origine.
Absolument. Oui. Et notamment la voirie. Parce que Le Corbusier et son frère et son cousin avaient tout dessiné. Dans l'ouvrage, j'ai retrouvé des dessins d'atelier, pas des dessins, des dessins qui n'avaient pas été publiés jusqu'à maintenant, de la, comment ils avaient fait la serrurerie, comment ils avaient dessiné le grillage, la cage à poules, parce que dans le projet, il y avait dans chaque terrain une cage à, un clapier et un poulailler qui étaient dessinés. Et la boîte aux lettres aussi était dessinée, avec le numéro pour chaque maison et tout. Et donc actuellement, on est en train de remettre ça en place. Et il y a eu un gros travail fait par les architectes Vernet pour faire en sorte que l'EDF ne vienne pas mettre son compteur qui est plus grand que les boîtes aux lettres et casse les boîtes aux lettres. Et donc, ils ont tenu que l'EDF fasse un compteur un peu spécial qui rentre dans les boîtes aux lettres. Pour que, voilà, il y a tout un travail qui est fait comme ça. Et justement, comme tu le dis, les avenues et les jardins. Parce qu'il a été planté des liquides en barque, ce sont des espèces de chaînes, qui en font des racines, qui lèvent la route, qui lèvent les trottoirs. Et donc maintenant, on va abattre ces arbres pour remettre des arbres dont les racines ne viendront pas détruire. Alors, tout l'environnement doit être repris comme l'avait envisagé Le Corbusier. Et quand on fait des photos, je les ai mises à la fin du livre, comme si la fin du livre était l'ouverture de la Renaissance. Il y a des photos que j'ai pu faire le printemps dernier et cet été dernier, dans lequel on a l'impression qu'on est dans une cité-jardin, qu'on ne voit pas les maisons abîmées, on voit que les maisons restaurées. Et c'est pas triché, hein, mais c'est un angle de vue un peu recherché. Et on dit, mais c'est formidable, que c'est une vraie cité-jardin, parce que c'était une cité-jardin au départ, qui est moderne.
Mais je crois que l'on conserve quand même un ou deux exemples d'aménagement de ces années 50-60 pour montrer qu'il y a eu, à un moment donné, quelque chose d'autre qui s'est passé entre l'occupation et la Renaissance.
Oui, c'est ça. Tu as raison. Je crois que c'est ce qu'il faut faire, d'ailleurs. Il faut montrer... c'est intéressant de voir comment une œuvre, puisque c'est une œuvre, est passée d'un tout neuf, tout beau, à un dégradé incroyable et une mort presque annoncée. Puis tout d'un coup, une Renaissance... avec une Renaissance par des travaux personnels, pas trop loin de l'origine, mais qui ne sont pas du tout quand même l'origine, et en même temps une Renaissance avec des travaux qui essaient de retrouver l'origine. Et c'est intéressant de laisser les témoins de l'histoire, du passage.
Avant de... Je vois que le micro se prépare pour laisser la parole au public. Je voudrais quand même poser une dernière question. Quelle est... le devenir par rapport à l'UNESCO de cet ensemble, est-ce que ça s'annonce positif? Est-ce que c'est une affaire délicate? On ne sait pas.
Non, on ne sait pas. J'ai eu l'honneur d'assister à la commission qui s'est passée en septembre. C'est une architecte russe qui dirige la commission, qui m'a posé la question, mais enfin... Parce que moi, j'ai travaillé en Russie, je connais un peu comment ça se passe. En Russie, c'est très bien, on sort les gens, on rase, on recommence. Elle dit, mais enfin, où est l'État? Pourquoi l'État n'a pas enlevé tous les gens qui avaient abîmé ces immeubles? Parce que si vous voulez que ce soit l'UNESCO, il faut que l'UNESCO peut nous choisir que des immeubles dont on est sûr que c'est l'œuvre d'origine et qu'ils seront pérennes, c'est-à-dire qu'ils seront entretenus. Et pour nous, il n'y a que l'État. Je lui ai expliqué, non, on est en France, on est en démocratie, il y a le droit privé. Quand les gens sont propriétaires, ils sont chez eux. On ne peut pas les chasser comme ça. Il faut essayer, au contraire, de faire un travail d'éducation et de les aider à les transformations. Donc, les aides de l'État consistent à trouver des accompagnements financiers pour faire ces travaux. Mmh. Et c'est le gros problème. Est-ce que la Commission va accepter que toute... Parce que, pardon, il n'y a pas que Pessac. Hein. Pessac n'est pas seul. Il est avec 15 autres projets. Or, notamment Chandigarh et notamment d'autres projets. Or, les autres... États ou les autres pays n'ont pas forcément rempli complètement le dossier. Ce qui fait que, autant maintenant à Pessac, il y a un super dossier, la ville est vraie, l'ensemble des parties, la DRAC, tout le monde ici y a travaillé. Donc Pessac a un bon dossier, mais si les autres dossiers sont mauvais, l'œuvre de Le Corbusier ne sera pas inscrite à l'inventaire de l'UNESCO, au patrimoine mondial.
Qu'est-ce que ça va apporter à cette cité, un classement UNESCO, enfin une labellisation UNESCO?
Alors je crois que ça, c'est pour notre métropole que c'est intéressant. Mm-hmm. Parce que je crois que les Pessacais et les gens qui habitent ces lieux sont maintenant convaincus qu'il faut aller plus loin et qu'il faut absolument retrouver un ensemble qui soit cohérent, même si ce n'est que le quart de ce qui était, parce qu'il y avait prévu 200 logements au départ, et il n'y en a que 51.
C'est-à-dire une reconnaissance d'une œuvre exceptionnelle, comme tu le dis.
Et c'est notoire, puisque la ville de Pessac, il y a assez longtemps déjà, avait acheté une des maisons. Elle a été restaurée avec la recherche des pigments et tout. Et elle sert de lieu d'accueil, de lieu d'information, où viennent. Et c'est étonnant, il y a des gens du monde entier. Si vous allez vous promener là-bas, vous verrez, à n'importe quel jour de la semaine, des gens qui se promènent avec leur appareil photo.
C'est ce que disait la concierge en 1929. Hein. Elle disait, il vient un tas d'étrangers, des gens bien chics, bien polis et qui photographient.
Oui, ils y a raison.
Déjà.
Voilà. Donc, on sait que voilà. Donc l'important que ce soit à l'UNESCO, c'est que pour la métropole, ça fera venir encore plus de monde. Et on dira, à Bordeaux, il y a bien une ville 18e assez extraordinaire, mais il y a en plus des témoins. Un témoin rarissime, ça que je mets inconnu de Le Corbusier, parce que on voit Fruges et on comprend l'œuvre de Le Corbusier.
Merci Michel et merci à vous tous d'être venus.